Top FM Mid-Morning Show. Morning Show.
Alors, hier, nous avions observé la Journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées. Et aujourd'hui, dans Top Santé, nous avons le plaisir de recevoir Dr Pascal Dinan, médecin gériatre. Dr Dinan, bonjour.
Bonjour Pamela, bonjour les auditeurs.
Alors, le thème, c'est favoriser la bientraitance de nos aînés. Je voudrais, pour commencer, vous demander qu'est-ce qui vous a poussé en tant que jeune médecin vers la gériatrie, c'est-à-dire s'occuper de nos aînés.
Oui, effectivement, la gériatrie, c'est la médecine qui s'occupe des aînés, tout comme la pédiatrie, c'est la branche de la médecine qui va s'occuper des enfants. Évidemment, la gériatrie, c'est un domaine d'avenir, puisque la population est vieillissante et que le nombre de personnes âgées augmente et qu'il s'agit d'avoir à leur égard une attention aux soins qui soit orientée selon leurs besoins. Donc, on a une prise en charge qui est vraiment spécifique de cette branche d'âge, que ce soit sur un plan de santé. Moi, à la base, je suis médecin, mais aussi sur un plan sociétal, social et de qualité de vie. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines en lien avec la gériatrie. Et c'est pour ça qu'on associe la gériatrie avec la gérontologie. La gériatrie, c'est la médecine. La gérontologie, c'est tous ceux qui sont aux côtés des personnes âgées. Donc, sera gérontologue, un animateur en maison de retraite, sera gérontologue, un journaliste qui va s'intéresser à la question et qui va faire évoluer la cause des personnes âgées, sera gérontologue, un aide-soignant à domicile qui sera aux côtés de la personne âgée. Donc, le médecin, il a besoin de travailler en équipe, il a besoin de se constituer partie prenante de toute une team et le travail que l'on fait au sein de l'association FIAPA, Fédération internationale des associations personnes âgées, c'est vraiment un travail pour faire avancer la cause des personnes âgées. Et aujourd'hui, nous sommes le lendemain aujourd'hui du 15 juin, où on célèbre le World Elder Abuse Day, qui a été lancé en juin 2006 par l'Organisation mondiale de la santé des Nations unies, pour justement faire prendre conscience et sensibiliser sur la question de la bientraitance aux personnes âgées.
Alors, Dr Dinan, vous avez mentionné la FIAPA. Justement, vous venez d'être réélu à la présidence. Est-ce que vous auriez pu nous présenter l'association?
Alors, l'ONG FIAPA est maintenant dans le paysage mauricien depuis bientôt plus de 15 ans. Donc, FIAPA, on dit Groupement FIAPA à Maurice. Donc, le Groupement FIAPA, c'est une ONG qui est constituée de membres individuels, mais aussi constituée de maisons de retraite. Donc, des maisons de retraite qui sont affiliées à l'ONG, aussi des associations, des institutions. Et cette ONG, elle est reliée à la FIAPA France, elle a son siège à la FIAPA France. Et à Maurice, nous représentons la région océan Indien sur le conseil d'administration. Et donc, nous sommes partie prenante de s'intéresser à toute cette question dans la région océan Indien. Et à ce titre, en 2014, on a eu l'occasion de mettre en place le premier colloque international sur les droits et la bientraitance des personnes âgées au niveau de la région. Et on avait d'autres pays qui étaient présents, d'autres pays de la région, à savoir Rodrigue, Madagascar, Seychelles, Mayotte, la France, Maurice, La Réunion, et on a pu avoir des échanges bien intéressants. Sinon, indépendamment de ça, nous avons concrètement à Maurice toutes les semaines des activités au couvent de Belle-Rose, où se trouve notre centre, et nous faisons la promotion du bien vieillir, donc de vieillir en bonne santé, c'est-à-dire la prévention des maladies chroniques, la prévention de toutes ces maladies qui peuvent survenir dans le grand âge. Et donc, on a des animations santé, on fait des séances de tai chi, des séances de yoga, des chants chorales, des séances de danse, des célébrations d'anniversaire. On a plusieurs activités, on a aussi des ateliers cuisine, des ateliers couture. et on vient marquer les journées internationales, on célèbre la fête des grands-parents, on célèbre la fête des mères, etc. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir le bénévolat, parce puisque toutes ces activités sont menées par des bénévoles et coordonnées par le comité exécutif. Et puis aussi de permettre de rompre l'isolement, de rassembler les gens, d'avoir un petit programme d'une semaine à une autre et de venir rencontrer des personnes là où nous sommes. Et puis, vous allez me poser la question, certainement, Pamela, comment on se débrouille en cette période de pandémie?
Voilà, c'est exactement,
on est à la maison. Ben, on a été obligé d'innover, d'être un peu créatif et de faire des séances par Zoom. Alors, les séances par Zoom, c'est un big challenge parce que ça veut dire mettre nos aînés derrière leurs écrans.
C'est pas toujours évident.
Leur faire comprendre comment aller cliquer sur le lien. Et puis, au niveau du comité exécutif, de coordonner aussi tout ce travail avec les animateurs. Et même pour nos animateurs, ça a été un challenge parce qu'il faut se mettre derrière l'écran et proposer des séances un à un derrière l'écran. Mais on est bien étonnés, ça fait donc 2 mois qu'on fonctionne sur ce mode-là. Et ça fonctionne, on a les membres qui sont présents, qui étaient demandeurs d'ailleurs. Ils nous ont dit, on a besoin, ça nous manque, ces rencontres, ces réunions, on a besoin. Et donc voilà, il faut innover et être proche de toutes ces nouvelles technologies.
Absolument.
Oui. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'associations pour les personnes âgées, car je sais que vous siégez également au sein d'une autre organisation?
Il y a déjà tant et plus de clubs seniors qui existent. Donc, nous travaillons aussi en collaboration avec les seniors citizen clubs qui existent dans les différentes régions. Nous, notre club se trouve à Belle Rose. Donc, viennent, ceux qui peuvent s'organiser pour venir, mais il y a des activités au niveau des senior club councils qui s'apparentent un peu à ce qu'on fait. Donc, on a toujours été très, très ouverts et dans l'interaction. Et puis, on a accueilli des groupes seniors de Rodrigue, hein, des groupes seniors de La Réunion. On a accueilli des Mayorais aussi, des gens qui venaient de Mayotte. Bon, là, malheureusement, on est dans la fermeture des frontières depuis 2 ans. C'est triste. Mais voilà, on a cette interaction avec les autres clubs. Et puis, bon, il y a l'association Alzheimer Boris qui est juste à côté. Et on essaye de favoriser l'interaction entre les personnes âgées en relativement bonne santé qui viennent pour justement faire de l'exercice physique et rencontrer les autres. Et puis, on a juste à côté le centre d'accueil des patients qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et qui sont aussi en interaction avec les membres de leur famille, évidemment, hein, parce que le centre d'accueil, il prend toute une journée de 8h à 15h. Donc, il y a beaucoup d'interactions avec les familles et on n'a jamais fait de distinguo entre l'ONG avec les personnes en bonne santé et l'ONG avec les patients vivant avec la maladie d'Alzheimer, toutes les maladies neurodégénératives apparentées, hein,
oui.
À côté de la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a une interaction entre ces deux ONG, certainement, oui.
Alors, docteur, à partir de quel âge on peut qualifier une personne dans la catégorie nos aînés, troisième âge, une vieille grandie moune?
Oui. Ben, écoutez, Pamela, c'est vrai qu'il y a une espèce de chronologie comme ça, une définition chronologique de la personne âgée. Puisqu'il faut catégoriser, on a les jeunes, les adolescents, les adultes et la personne âgée. Il y a différentes définitions. Il y a l'OMS qui va se dire à partir de 60 ans, les retraités. Déjà, la question de 60 ans à 65 ans, il y a la question de la retraite qui avance progressivement et toutes les questions socio-économiques derrière. En gériatrie, on va parler de ceux qui sont des personnes âgées en bonne santé et puis des personnes âgées qui vont progressivement être en perte d'autonomie et avoir des comorbidités, des pathologies à côté qui font qu'ils vont être en perte d'autonomie. Donc, on a comme ça des tranches d'âge, 60, 75, 75, 85, 85 à monter et puis on a les super age qui sont les plus de 100 ans et Dieu seul sait que leur nombre est en train d'augmenter de façon importante. Cela dit, pour rester sur le thème du World Elder Abuse Day qu'on a célébré donc hier, il y a une question aussi de quels sont les mots que l'on utilise pour parler de nos seniors. Et il y a toute une notion de bienveillance aussi à avoir en utilisant un vocabulaire qui soit digne d'eux. Et on va par exemple parler de personnes vulnérables plutôt que de personnes dépendantes. On va parler de personnes atteintes de troubles neurocognitifs plutôt que de venir dire cette personne est démente. Ou de malades souffrant de maladies d'Alzheimer plutôt que un patient Alzheimer. Ou alors le soutien à domicile plutôt que le maintien à domicile. Il y a un langage aussi orienté vers la personne âgée qui se veut être bienveillant en essayant d'éviter les mots tels que sénile, tels que placé en institution, grabataire, etc. Toute personne âgée n'est pas forcément quelqu'un qui est en train d'être entouré de mots trop négatifs, si vous voulez.
Oui, alors moi, je suis sûre que nos aînés seront d'accord s'ils nous écoutent, bien sûr, et je sais qu'ils sont nombreux. On aime bien votre philosophie, parler surtout de la bientraitance. D'ailleurs, c'est le thème de notre émission ce matin. C'est important de mettre l'accent sur la bientraitance au lieu de la maltraitance, mais malheureusement, il y a eu pas mal de cas. Alors, comment vous qualifierez justement une maltraitance?
Oui. Ben, si vous voulez, quand on parle quand même de personnes qui commencent à s'installer dans une forme de dépendance, de perte d'autonomie, cette personne, elle est vulnérable. Donc, elle n'est plus en mesure de se prendre en soin, que ce soit pour les actes de la vie courante, se laver, s'habiller, se tenir propre, manger, ou les activités instrumentales de la vie de tous les jours, à savoir aller faire ses courses, aller faire son shopping, utiliser le téléphone, utiliser les moyens de transport. Donc, cette personne vulnérable, elle a besoin d'une tierce personne qui soit à côté. On appelle ce carer. Le carer, il peut être informel, c'est-à-dire un membre de la famille, en sachant que quand c'est un membre de la famille, il y a souvent aussi des émotions et une relation particulière au membre de la famille, ou que ce soit un carer qui soit un soignant, hein, que ce soit un aide-soignant, une dame de compagnie, une garde malade, whatever. Il y a donc une relation qui se crée entre ces deux personnes. C'est une relation humaine. Et cette relation humaine, quand elle devient asymétrique, quand il y a un déséquilibre dans la relation humaine, on peut venir parler de maltraitance. Cette personne n'est plus en état de s'occuper d'elle-même. Elle fait appel à une tierce personne ou à une organisation dont la responsabilité, c'est de s'occuper de l'autre. Que ce soit à la maison ou que ce soit dans une institution, dans une maison de retraite, dans ce qu'on appelle les homes à Maurice, il y a une relation d'asymétrie qui peut se mettre en place et qui va devenir de la maltraitance. Et cette maltraitance, elle devient intentionnelle quand l'autre vient exercer une emprise sur la personne âgée. Et cette emprise sur la personne âgée, elle résulte parfois d'un aspect un peu narcissique de certaines personnes qui veulent avoir le pouvoir, qui veulent abuser de leur autorité et qui vont avoir donc une emprise sur une personne plus vulnérable. Et ces personnes peuvent devenir malveillantes quand elles vont agresser. Et l'agression, elle peut être psychique, c'est-à-dire je vais être psychologiquement, je vais agacer l'autre, je vais être sur son dos, je vais abuser de mon pouvoir d'autorité, ou la maltraitance peut être définitivement physique avec des coups, des blessures. Ou alors des vols.
Justement, et malheureusement, il y a eu des cas où ces personnes âgées ont été victimes. Alors, certains jeunes ne réalisent pas qu'eux aussi, ils vont passer par cette étape. Oui. Alors, comment justement les faire comprendre que nos pauvres aînés, par exemple, vous avez parlé de vol. Effectivement, il y a eu pas mal de cas également, docteur.
Oui, il y a des cas. Il y a des cas et il y a aussi des antennes, hein, des antennes d'appel. De venir s'indigner, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, on s'indigne. Ok, très bien. Mais après, il y a la question de alerter. Et l'alerte n'est jamais simple. N'est jamais simple parce qu'elle va avoir des implications pour cette personne, pour cette famille, et que parfois on préfère se taire plutôt que dire. Mais quels sont les moyens d'alerte que l'on a? Quels sont les centres d'écoute dédiés que l'on a pour venir signaler ces cas de maltraitance et d'abus? Et je répète, les abus ont lieu parfois dans les institutions, mais aussi parfois dans les familles. Dans les familles, quand la personne âgée est à la maison, il peut y avoir des conflits familiaux avec aussi des phénomènes d'emprise. Et je veux vraiment, Pamela, profiter de ce que j'entends, mes ouvertes là, pour dire qu'il y a aussi une maltraitance qui n'est pas forcément toujours intentionnelle. Il y a de la maltraitance intentionnelle, mais il y a aussi de la maltraitance qui n'est pas intentionnelle et qui peut se retrouver dans des équipes qui évoluent autour des personnes âgées, et ce sont des équipes qui sont en sous-effectif ou alors en manque de formation spécifique à la question de la gériatrie et de la gérontologie, où il y a des problèmes d'organisation, et ce sont des équipes qui sont en souffrance. Et s'occuper d'une personne âgée n'est jamais un travail facile. Ça demande beaucoup d'empathie, beaucoup de patience. Quand il commence à avoir des troubles neurocognitifs, la personne se répète, elle peut ressasser un peu les mêmes idées. Quand elle est isolée, déprimée, elle peut devenir, il y a une attention, une écoute, une attention particulière à porter à la personne âgée vulnérable, mais ça nécessite d'être formé. Ça nécessite de savoir s'adresser à elle, s'occuper d'elle, le savoir-faire et le savoir-être vis-à-vis de ces personnes hyper importantes.
Mais docteur Dinan, vous êtes bien placé pour le savoir. Comment vous trouvez la situation aujourd'hui au niveau de nos aînés?
Écoutez, il y a les ONG qui font donc un travail social de sensibilisation, de conseil, de mettre l'accent sur les journées internationales de la personne âgée, par exemple. Aujourd'hui, cette fameuse journée de lutte contre la maltraitance des seniors, ça fait un petit peu le travail des ONG. Je sais que l'ONG Dis-moi aussi a fait ce travail de sensibilisation. Je crois qu'ils ont eu des articles de presse dans le Défi quotidien.
Oui, absolument, oui.
Passé, voilà. Et ensuite, il y a évidemment les antennes d'appel et d'écoute. Et ça, je crois que ce sont des unités qui existent, avec des officiers qui vont à domicile, etc. Ça, c'est le rôle du ministère de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Et je crois qu'ils ont des numéros d'appel, des hotlines, des choses de cet ordre-là, des enquêtes, etc., qui peuvent se faire. Et moi, ce que j'ai découvert et j'ai trouvé très intéressant à l'île de La Réunion, en 2015, on a eu, dans les suites du colloque qu'on avait mis en place en 2014 à Maurice, le colloque international dont je vous ai parlé en début de rencontre, hein, on a eu en 2015 les premières assises de la bien-traitance à La Réunion. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer l'équipe de bénévoles qui travaillait au sein de Allo Maltraitance, qu'on appelle ALMA, Allo Maltraitance. Et Allo Maltraitance, c'est un centre d'écoute avec des bénévoles qui ont été formés, avec tout un circuit de récupérer les appels, d'orienter, d'informer et de signaler pour qu'ils puissent avoir des enquêtes à domicile. Et on a découvert, nous, ce système qui existait et qui fonctionnait. Et ils étaient formés par Allo Maltraitance qui existe aussi au niveau de la métropole, hein, donc ce sont des antennes comme ça, régionales. Et j'ai trouvé que le système était intéressant parce qu'il y avait un lieu, hein, où alerter. Et puis, je vous le redis, c'est un devoir d'alerter, mais il faut le faire avec pertinence et sans mettre la victime en danger. Il y a souvent des peurs de représailles, hein, de la part de toute personne vulnérable et tout. Donc, je ne suis pas la spécialiste de ces antennes d'écoute, mais c'est quelque chose qui existe et qui définitivement peut être un lieu d'alerte et de l'action concrète à mener, hein, pour ces personnes âgées en difficulté.
Alors, docteur Dinan, on va faire une pause publicitaire. On vous retrouve juste après. 104.4 Central, 105.7 East and West, 106 North and South. Top of
the Mid-Morning Show on Top FM.
Favoriser la bientraitance de nos aînés. Nous recevons ce matin docteur Pascal Dinan, médecin gériatre. Docteur, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là, Pamela.
Oui. Alors, vous aviez cité pas mal de choses et moi, je voudrais ajouter malheureusement certaines personnes âgées se retrouvent seuls. Beaucoup sont abandonnés par leurs enfants. Et puis de plus en plus maintenant, il y a justement des carers qui s'occupent d'eux. Et vous aviez utilisé le mot formation. Ces carers, c'est très important qu'ils soient formés.
Tout à fait. On a eu l'occasion et ça a été un moment très porteur au sein de notre ONG quand on a mis en place l'unité de training MQA Approved de 2014 à 2020. On a eu 6 ans de formation à travers un programme qui nous a été donné, qui nous a été offert donc à travers la francophonie, le programme local. Et au sein de ces donc moi j'étais le programme officiel, donc on a mis en place le training avec des outils spécifiques et surtout des thèmes à aborder. Et parmi les d'abord on a six modules puis on a augmenté à 8 modules, et parmi les thèmes abordés on avait justement comment promouvoir la bien-traitance des seniors. On avait la dépression, mieux connaître la maladie d'Alzheimer, quels sont les problèmes de nutrition des personnes âgées, les maladies infectieuses chez la personne âgée, les problèmes de peau, etc. On avait des topics bien définis et on a eu des échanges super intéressants avec des responsables de maisons de retraite qui étaient affiliés à la SIAPA et à la SIAPA Maurice, et à travers des individuels qui ont voulu venir se former. Et on a eu des temps d'échange vraiment formidables. Et dans les suites justement de cette conférence internationale qu'on avait menée en 2014, et on s'est rendu compte de l'importance de cette formation. Ensuite, moi, en tant que médecin de terrain, quand je vais dans une famille ou quand je suis appelée à avoir un patient en consultation, il y a aussi beaucoup de conseils qui sont faits par rapport aux personnes qui sont à côté de la personne âgée, que ce soit un proche de la famille ou un garde malade auquel la famille doit chercher, ou un aide-soignant, ou bien il y a aussi maintenant des réseaux, des structures qui existent où il y a, mettons, un infirmier en chef, un infirmier coordonnateur qui va gérer une unité de garde malade et qui va avoir un peu comme une agence de garde malade. Donc, il y a des interactions avec ces différentes personnes, et en tant que médecin, on se retrouve un peu comme un case manager à conseiller, à orienter et à guider ces personnes dans la prise en charge d'eux. Mais malheureusement, la formation n'est pas suffisante. Le bon vouloir n'est pas suffisant. Il faut être formé. Il faut un minimum de formation pour s'occuper des seniors. Et ça fait partie de la bien-traitance. La formation fait partie de la bien-traitance. Ensuite, pour les personnes isolées, je pense qu'il y a aussi un problème de mentalité intergénérationnelle qui rentre en jeu aussi. Est-ce que notre société mauricienne est individualiste de plus en plus ou est-elle solidaire vis-à-vis de ces tranches d'âge, de ces différentes tranches d'âge? Donc la solidarité intergénérationnelle, c'est important. Ça s'apprend d'abord dans la famille, ça s'apprend ensuite à l'école. Est-ce qu'on met suffisamment l'emphase sur les métiers à la personne âgée? Est-ce qu'on valorise les métiers à la personne âgée? Les métiers à la personne âgée, c'est varié, hein. C'est l'animateur en maison de retraite, c'est le physio, le kiné, l'ergothérapeute qui va s'occuper d'avoir un fauteuil adapté à nos seniors, le psychomotricien, l'orthophoniste, le domaine médical, former nos jeunes médecins à cette question de la prise en charge spécifique de la personne âgée dans tous ses besoins vraiment orientés. Il y a tant et plus, en fait, le métier de la gériatrie, c'est riche. Donc, est-ce qu'on valorise ces métiers-là? Comment est-ce qu'on fait pour recruter correctement et former le personnel que l'on place en maison de retraite ou qui va à domicile s'occuper d'eux? Il y a des enveloppes qui sont mises à disposition des familles pour les, ce qu'on appelle le carers allowance.
Absolument,
pour les personnes âgées en
perte
d'autonomie. Alors, ces personnes qui vont s'occuper de devenir carers, qui ont été formées, comment on les recrute. Et puis, je crois aussi, enfin, pour être aux côtés des seniors depuis une quinzaine d'années maintenant à Maurice, est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un équilibre à trouver entre la liberté de la personne âgée et sa sécurité? Je vois parfois des attitudes de surprotection. surprotection de la part des familles, surprotection de la part des soignants. Dans cette relation justement de humaine entre la personne vulnérable et la personne qui en prend soin et qui peut devenir déséquilibrée par une surprotection. Mais la personne de 85-90 ans, elle a ses choix, elle a ses droits, elle a les choix qu'elle peut porter, elle peut dire des choses, il faut l'écouter, il faut lui donner la parole. Et ce qu'on a célébré hier, c'était ça, en fait. C'était ça. Et hier, c'était le 21e anniversaire de déclaration des droits des personnes âgées dans la Charte européenne. Quand on avait travaillé en 2014, on avait travaillé dans la région océan Indien, on avait établi aussi des documents. On avait établi des chartes. Et les chartes ont été aussi déposées au ministère de la Sécurité sociale. Je ne sais pas où elles sont. Mais elles ont été partagées vis-à-vis de nos dirigeants à l'époque. Et donc, tant qu'il y a plus à faire, Camilla, mais
oui.
Voilà. On profite de la journée pour sensibiliser.
Exactement.
Il y a tant d'acteurs qui peuvent intervenir à différents niveaux. Je pense aussi à la question de la vie à la maison. Quand on vit à domicile et quand on vit en maison de retraite, on oppose vie à domicile et vie en maison de retraite, alors qu'il y a toutes sortes de parcelles qui peuvent exister entre le domicile et la maison de retraite. Le centre d'accueil de jour, le TKR Center, comme on dit à Maurice, c'est une parcelle entre la vie à domicile et la vie en maison de retraite.
Alors,
les choses se passent de façon progressive.
Docteur Dinan, pourquoi ils subissent cette maltraitance? On a vu ensemble, il y a plusieurs motifs, plusieurs raisons. Malheureusement, l'argent très souvent est une de ces raisons. Mais ces pauvres aînés, des fois, ils se retrouvent seuls, sans défense, à subir cette maltraitance. Alors, les conséquences sont terribles. Traumatisme physique, psychologique, et j'en passe.
Oui, c'est un constat. C'est un constat que nous disons trop souvent dans nos quotidiens. Ça fait la une de la presse, la presse à sensation ou la presse d'information. Ce sont des constats, clairement, et il y a sûrement des statistiques qui traînent quelque part à ce sujet. Et je pense que cela fait partie du travail de ceux qui nous gouvernent, de nos autorités, des ministères adaptés. Ça, c'est un constat. Ensuite, à chacun d'apporter sa pierre là où il est, pour venir justement faire connaître. Je sais que nous, on s'est rapproché de l'ONG Timoir, parce qu'ils font un travail aussi pour faire connaître les droits fondamentaux aux aînés. Nous, à notre niveau, on est assez orienté santé, bien-être, bien vieillir. Il y a toute la question du développement durable, de l'accès à la santé. Il y a tant et plus, hein, Pamela.
Oui.
Il serait bien intelligent qu'il y aurait la solution complète à tout cela. C'est un problème éminemment complexe et qui ferait intervenir beaucoup d'intervenants à des niveaux sociologiques, culturels, nos dirigeants, nos ONG, enfin voilà.
Docteur Dinan, on va faire une autre pause et ensuite nous allons arriver à la dernière partie de notre émission.
Très bien.
Top FM dans le Nord et le Sud 106.0, l'Est et l'Ouest 105.7 et le Centre 104.4.
The Mid-Morning Show on Top FM.
Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous recevons le docteur Pascal Dinan, médecin gériatre. Favoriser la bientraitance de nos aînés, c'est le thème ce matin. Docteur Dinan, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être dans certaines familles, n'ont pas le choix. Tous les membres travaillent et parfois, il y a une personne âgée au sein de la famille. Alors très souvent, ils vous disent ce n'est pas facile de trouver quelqu'un pour s'en occuper. On n'a pas le choix, il faut la mettre en maison de retraite. Est-ce qu'il faut, vous en tant que médecin gériatre, est-ce qu'il faut préparer la personne avant de l'emmener dans une maison de retraite? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est conseillé?
Bien sûr, c'est jamais un choix facile, que ce soit pour les membres de la famille, qui parfois ont un sentiment de culpabilité de ne plus pouvoir se prendre en charge ou que ce soit pour la personne âgée, qui vous imaginez arriver à un certain âge, vous devient très accroché aussi à ses habitudes, à son environnement, aux meubles que l'on a achetés, qui ont une signification, qui font penser à telle personne. Enfin, on a
beaucoup de souvenirs, quoi.
Oui, on a des souvenirs, on s'enracine au fur et à mesure. Et c'est sûr que c'est un arrachement, hein. Mais comme vous dites très bien, parfois on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et donc il faut passer la main à des personnes qui n'ont pas forcément ce côté affectif, ce ressenti affectif que l'on peut avoir pour un membre de sa famille et qui sont dans des maisons, dans des homes où ils travaillent. Alors là, il faut compter sur la bienveillance des soignants, sur la bienveillance de la gérante aussi des maisons, sur le niveau de formation de tout ce monde. Et puis, évidemment, alors quand on parle de s'adapter progressivement à une entrée en maison de retraite, ce qui peut se faire, ce sont des journées d'essai où progressivement on y va, on voit si on a été bien accueilli, on va une première fois, une deuxième fois, etc. Et sans que ce soit brutal, on prend la personne et on la dépose en maison et c'est fini. Et puis, continuer à assurer ce lien entre la vie de famille et le nouvel endroit de vie. C'est-à-dire permettre les visites, permettre les visites en journée ou alors les week-ends à l'extérieur où on retourne en famille le temps d'un week-end. Peut-être justement la génération plus jeune, hyper active, a le temps de se reposer, de reprendre pied avec le senior, leurs aînés, que l'on ne se sente pas abandonné. Je pense que ça, c'est un point important. Maintenant, concernant les équipes qui sont en place là-bas, je crois que c'est important, Pamela, de pouvoir évaluer peut-être une fois le mois les pratiques au sein de la maison, analyser les pratiques, s'auto-évaluer, comparer les pratiques les pratiques de soins que l'on a et pouvoir se remettre en question et pouvoir discuter des cas des personnes et de leur famille en équipe. Avec un case manager qui sera soit le médecin, soit le responsable de la maison de retraite, ou alors un infirmier responsable qui devient un case manager. Et c'est important ça, qu'il y ait une organisation des soins, parce que les maisons de retraite, c'est à la fois un lieu de soins où il y a une distribution de médicaments, où il y a une qualité de vie par rapport au repas, par rapport au temps d'animation, etc. C'est aussi un lieu de vie, un lieu où on reçoit des visites, un lieu où on recrée une ambiance familiale et un lieu où l'après-midi, il faut vivre. Donc, il faut qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des animations, qu'il y ait de la musique, peut-être une séance TV, une séance cinéma. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit rempli de vie, parce que l'ennui peut devenir un facteur de dépression, d'isolement, où on se laisse aller, où on n'a plus envie d'eux. Hein.
Oui, dans certains endroits, je sais, il y a même le coiffeur qui vient, parce qu'il y en a qui continuent à s'occuper d'eux, mais malheureusement, il y en a d'autres, malheureusement, vous venez de le dire, qui se laissent aller.
Bien sûr, le regard de l'autre, le regard des autres est important pour s'auto-estimer soi-même. Donc, si je suis belle et maquillée, coiffée, j'ai quelqu'un en vie d'avis. Et donc, du coup, c'est hyper important, évidemment. Donc, ce que j'ai aimé dans mes études, c'est l'interaction jeune-vieux, où on avait souvent des soignants qui étaient des jeunes, et puis le patient qui avait 60 ans à monter. Et il y avait une interaction, ce lien intergénérationnel, il est à promouvoir, il est à travailler, il est à signaler aussi aux plus jeunes. Et je crois qu'il y a quelque chose à faire par rapport aux écoles pour qu'il y ait un regard, pour que la jeune génération adopte un regard positif envers le senior. Et j'ai vu des émissions où il y avait des essais, des expériences qui étaient faites entre les élèves de maternelle et des personnes âgées dans une maison de retraite. Et c'est magnifique de voir l'interaction spontanée des enfants vis-à-vis des plus âgés. Et la vie qui reprenait aussi dans les yeux de ces personnes âgées par rapport au regard que les enfants portaient sur eux. Donc, Voilà. Pour vous dire qu'il y a...
Oui.
Le travail ne manque pas.
Exactement.
Le travail ne manque pas, mais... Il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Voilà.
Justement. Alors, au lendemain de cette journée, on aime toujours terminer sur une note positive. Comment prévenir, comment justement favoriser la bientraitance de nos aînés, docteurs?
Ben, il fallait synthétiser tout ce qu'on a échangé depuis 40 minutes. Je crois que tout part à la fois du regard que la société porte sur eux et puis le ressenti qu'ils ont eux-mêmes de tout ce qu'ils ont accompli dans leur vie, de toute l'expérience acquise que l'on peut garder pour soi ou que l'on peut vouloir transmettre aux autres. Il y a le regard que l'on porte sur eux et puis il y a eux, leur propre ressenti et ce qu'ils veulent encore toujours apporter aux autres. Et on a on a l'exemple de quelques centenaires qui sont d'une sérénité, qui sont d'une... Voilà, ce qui compte, c'est la journée d'aujourd'hui et puis le reste, basta. Qui sont quelque part des livres ouverts sur une qu'est-ce que la vie, finalement, c'est d'accepter cet aujourd'hui et de le vivre bien. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais voilà, on avance progressivement. Moi, je veux rester très positive à l'égard de nos aînés. Il y a des situations qui sont catastrophiques et douloureuses, vraiment. Il y a des constats que l'on peut faire. Il y a une responsabilité de chacun d'entre nous, finalement, citoyens mauriciens vis-à-vis de nos seniors, et puis une interaction entre eux et nous, pour que eux ne soient pas passifs dans l'attente de quelque chose et nous dans le tout donner, mais qu'il y ait comme ça un échange qui puisse se mettre en place entre ce que l'on a à offrir et ce regard que la jeune société peut porter sur eux. Donc voilà, je terminerai sur cette note-là d'une interaction entre les générations.
En tout cas, c'est sur cette belle note d'espoir que je vais prendre congé de vous. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes médecin gériatre. C'était donc le docteur Pascal Dinan. Docteur, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission.
Merci, Pamela. Merci et merci aux auditeurs. Et je vous souhaite à tous très bonne journée.
Merci beaucoup.
Top FM, Mid-Morning Show.